Sur Radio Sterni, on fait aujourd'hui une émission du coup sur ce qui se passe un peu à Varsovie autour du logement. Et on vous a mis du coup une petite chanson avant, c'était de comment on prononce ça.
Zemona Legnitsky. Et ben, je vais commencer par dire qu'entre le 21 et le 23 juin, à Varsovie, il y aura les rencontres autour de lutte du logement. Et ça sera 3 jours des discussions et d'actions collectives autour de ce qui se passe partout en Europe en ce moment. C'est-à-dire une privatisation qu'on observe dans tous les pays d'Europe. Donc à la perte de l'accès au logement. Et donc ce phénomène qui sera un peu maladroit peut-être en français, mais alors les personnes sans maison et les maisons sans personne. Donc une augmentation des maisons vides. Et cette augmentation des maisons vides, elle est très liée avec l'augmentation des prix du logement. Et c'est-à-dire il y a de plus en plus de gens qui arrivent pas à payer les loyers et qui se trouvent dans la rue. Et donc pendant ces jours on va parler avec plusieurs collectifs. Il y aura des groupes d'Italie, de France, surtout il y a un groupe de la CREAC de Toulouse qui vient aussi, qui va parler de leur initiative, la campagne de réquisition des logements qui se passe en ce moment à Toulouse. Aussi des groupes de Londres qui aussi font des réappropriations, voilà. Et il y aura aussi des groupes de Pologne qui vont parler du même thème. Et donc, en général, on va essayer de comparer nos expériences de privatisation, comment elle est forcée, et des stratégies de résistance contre la privatisation. Et Je vais peut-être parler un petit peu de du contexte enfin, des logements à Varsovie.
Parce que du coup, toi, tu viens du collectif qui s'occupe des luttes autour du logement à Varsovie.
On peut dire ça comme ça. Plusieurs choses aussi.
D'accord.
Mais le logement est très important, en fait. C'est notre point de départ. Parce qu'on occupe une maison vide qui est inscrite dans cette histoire de réprivatisation qui se passe à Varsovie en ce moment. Mais avant de parler du contexte à Varsovie, je vais dire ce qui est le plus important, en fait, notre point de départ. C'est la mort de notre camarade, Yola Bjeska, qui était tué, brutalement tué, il y a 2 ans à Varsovie. Et Yola, elle était activiste, elle était une des cofondatrices d'association des locataires de Varsovie. Et elle était brûlée, en fait, on a trouvé son corps brûlante. Dans une forêt juste à côté de Varsovie. Et son histoire, en fait, et son lutte, sa lutte montre en fait la situation des milliers de gens à Varsovie. Et donc, Varsovie, la ville, elle était détruite complètement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et la situation des logements avant la guerre, c'était la privatisation entière. C'est-à-dire que tout le monde habitait dans un building qui appartenait à un privé. Et les gens, ils louaient leur appartement à cette personne privée. Et donc, il y avait une situation assez grave de logement parce que... l'accès au logement n'était pas pour tout le monde. Donc il y avait des ghettos, des slums, où les plus pauvres habitaient. Et pendant la guerre, Varsovie était détruite en 90%, 97% en fait. Et après la guerre, il y avait une énorme crise de logement. C'est-à-dire... les gens qui ont commencé à revenir sur Varsovie après la guerre, ils ont trouvé une ville complètement détruite. Il n'y avait pas où vivre. Et donc, du coup, ils ont commencé à reconstruire Varsovie eux-mêmes. Donc, ils ont trouvé des ruines et avec leurs propres mains, ils ont reconstruit des logements. Et ils ont commencé à vivre dans ces logements, c'est-à-dire ils ont squatté. Donc, c'était les premiers squattés à Varsovie, les premiers squatteurs à Varsovie. Donc, c'était fin des années 40, début des années 50. Et c'était un énorme fait de reconstruire toute une ville. Donc, d'un côté, il y avait cet effort collectif, cet effort commun du peuple qui ont lui-même, eux-mêmes, reconstruit ces villes. Et après, il y avait les coûts de cette reconstruction étaient super importants parce que pour plusieurs années, c'était la moitié du budget national de Pologne qui a été utilisé pour reconstruire la ville. Donc, en fait, il y avait d'autres villes à Varsovie, d'autres villages qui étaient déconstruites pour reconstruire Varsovie. Donc, on peut dire que la fête de reconstruire cette ville, c'était un fait de base, un fait du peuple. Donc, cette ville, vraiment, elle appartient à nous, elle appartient au peuple qui y habite. Et cette situation est importante parce qu'en ce moment, ce qu'on voit, c'est une réprivatisation de haute qui est imposée par les autorités. Et qui sans considération, effectivement, parce que les autorités y considèrent pas, mais malgré le fait, comme si la ville appartenait à ces, je sais pas, d'énormes entreprises et l'État. Mais revenons dans ce temps après la guerre. Donc Varsovie, elle était reconstruite. Et du coup, vu que la plupart de ces gens y squattaient des maisons qui à propos, n'appartenaient pas à eux, la ville de Varsovie a nationalisé, c'est-à-dire, nationaliser n'est pas, le bon mot, elle a communalisé tout la propriété qui était privée avant la guerre, c'est-à-dire tous les ce qui restait, toutes les ruines et en plus tous les endroits vides qui étaient bombardés, c'est devenu de, enfin ça appartenait, ça a commencé à appartenir à la ville. Et donc après ces temps, reconstruction, il n'y avait pas des logements privés à Varsovie. Donc jusqu'à la fin du système dit communiste, donc jusqu'à 1989, il n'y avait pas des logements privés. Tout le monde habitait dans un logement public qui appartenait à la ville. Tout le monde payait un loyer modéré à la ville. Ce qui a radicalement changé avec l'entrée du capitalisme, l'entrée de propriété privée dans les années 90. Donc à partir des années 90, la ville de Varsovie et aussi l'État, parce que Varsovie est la capitale, commencent à rendre les propriétés aux anciens privés. Donc il y a des descendants des anciens privés qui reviennent pour dire à cette propriété, elle appartient à ma famille, et elle était prise pendant cette période communiste, et là je veux encore avoir mon propriété privée. Et donc, mais en fait, cette partie des gens qui reviennent, donc ces descendants, c'est une petite partie. La plus grande partie des gens qui viennent pour récupérer la propriété privée, c'est des entreprises. Parce que il n'y a pas de loi, il n'y a pas de régulation, il n'y a rien qui est là pour gérer comment cette réprivatisation aura lieu. Donc il n'y a rien pour protéger surtout les gens qui habitent dans ces bâtiments. C'est complètement sauvage. Donc la spéculation et en plus l'achat et la vente des propriétés se passe tout le temps. Donc il y a des entreprises qui viennent, qui achètent ou qui falsifient très souvent aussi les droits aux propriétés. Elles sont partout. Donc il y a des entreprises qui en ce moment ont gagné les droits à plusieurs propriétés sur Varsovie, c'est-à-dire genre il y a une personne qui est devenue propriétaire de 60 maisons sur une seule rue ou dans une seule quartier de Varsovie. Donc on voit en ce moment une période de réprivatisation. Et c'est aussi la politique officielle de la ville de Varsovie, c'est de rendre le même état d'avant-guerre. Donc l'état où on avait 97% de la ville dans les mains privées. Et donc ce qui se passe, c'est une... Vu que la plupart des logements deviennent privés, les prix augmentent. Et quand il y a des prix qui augmentent, il y aura plus de disparités sociales. Et donc, il y aura aussi beaucoup des logements vides. Parce que les autorités, c'est important pour eux de maintenir les logements vides pour maintenir ce qu'on appelle une femme des maisons, une femme de logement. Donc... En effet, c'est pour spéculer avec les logements. Donc, dans cette période après la guerre et avant le capitalisme, le logement était considéré quelque part en tant que droit. Donc là, c'est plus un droit, c'est une commodité qui peut être achetée et vendue. La tragédie dans cette histoire, c'est surtout les gens qui habitent dans ces bâtiments qui sont réprivatisés de nouveau. Et Yola Bjeska, elle était une de ces gens qui un jour s'est retrouvée habitant dans un appartement qui appartenait plus à la ville, mais qui appartenait à un privé qui s'appelle Mossakovski. Tu veux arrêter là ou
est-ce que je vois on peut passer la genou. Non, j'écoute, okay. J'écoute. Mais
je vois que tu t'approches.
Non, je sais pas ce que j'avais une question, mais je peux la réserver pour un peu plus tard. Mais du coup, on peut passer
la poser, comme tu veux.
On peut passer sinon la musique du coup qui a été faite pour Yola.
Pourquoi pas.
flagi na schodach i tam gdzie z daleka pozdrowią psy. Co nie napisze gazeta,
c'était la chanson pour Yola Breska.
Oui. C'est une chanson qui était enregistrée il y a un an. Et là, il y a le vidéo qui vient d'apparaître sur Internet. Et donc Yola, elle habitait à Varsovie avec sa famille. Son père, en fait, il a reconstruit sa maison après la guerre. Donc, il était un de ses premiers squatters dont on en a parlé. Et quand il a trouvé cette maison à Varsovie, il y a des données, enfin records, des archives. Oui, des archives qui du bureau de la reconstruction de Varsovie qui montrent que cette maison, quand le père de Yola Brzeska l'a trouvée, elle était à 3/4 détruite et donc elle n'était pas habitable. Donc lui avec les autres, le groupe des voisins, ils ont reconstruit cette maison et quelques années plus tard, on voit dans ces archives que la maison elle est habitable. Donc ces gens, ils ont gagné le droit d'habiter dans cette maison parce que dans cette maison comme dans d'autres maisons comme elle, par le fait qu'ils les ont reconstruits eux-mêmes. Donc Yola, elle a grandi dans cette maison. Elle a habité dans cette maison pendant 50-60 ans. Et un jour, elle a reçu une lettre dans la boîte poste lui disant qu'en fait, il y a un monsieur qui s'appelle Monsakowski, qui aussi qui travaille avec un avocat qui s'appelle Masalski. Et c'est des gens qui aussi ont retrouvé leurs titres aristocratiques. Donc Masalski s'est dit en tant que baron. Et Monsakowski, lui aussi, il a un titre. Et donc, elle a reçu une lettre lui disant, en fait, votre appartement, il appartient plus à la ville. Maintenant, c'est nous, vos nouveaux propriétaires, et on va augmenter votre loyer systématiquement pendant les années qui viennent. Et vu que cette réprivatisation, officiellement, c'est une relation entre les privés qui arrivent et qui disent « ça appartient à moi » et la ville. Donc les gens qui habitent dans ces maisons, malgré le fait qu'ils ont tous les droits à ces maisons parce qu'ils les ont reconstruites, ils n'ont aucun droit, ils ne sont pas du tout considérés en tant que sujets dans cette affaire. Donc en fait, très souvent, ils apprennent que leur maison est réprivatisée quand ils reçoivent cette lettre dans la poste. Et ils font pas du tout partie du procès, ils peuvent pas se protéger, c'est très difficile de lutter contre. Mais Yola, elle était quelqu'un qui s'est tout de suite mis dans la lutte pour son appartement, pour cette maison. Et elle a lutté pendant des années avec son mari, qui est mort dans le procès, dans ces années. Et elle a très bien arrivé à suivre toute l'histoire des papiers, des documents, qu'est-ce qui était signé, qu'est-ce qui était perdu. Et elle arrivait à résister. Elle a tout de suite vu aussi que son histoire, son situation, elle n'était pas particulière. Ce n'était pas quelque chose, genre une mauvaise pomme dans un système qui marche très bien, mais c'était un problème systématique qui touchait beaucoup, beaucoup du monde à Varsovie. Et donc, elle s'est tout de suite mise avec d'autres locataires qui luttaient dans d'autres parties de Varsovie, et ensemble, ils ont créé cette association. Et c'était la première association qui a dit, en fait, ces gens qui habitent dans ces maisons réprivatisées, on a des droits et on va lutter.
Et juste pour savoir, c'était dans quelles années, en fait ?
C'était dans les années 90.
D'accord.
Et ça a commencé. Et cette association, donc en polonais c'est WSL, Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów, donc l'association des locataires de Varsovie, elle a commencé à marcher, à lutter dans les années 2000 déjà. Parce que ça, en fait, cette réprivatisation, elle a commencé dans les années 90, mais elle devient de plus en plus forte dans les dernières années. Et donc Yola, elle a suivi toute cette histoire de comment cette privée, il a gagné les droits à cette maison. Parce que très souvent, c'est comme fonctionne ce système, en fait. Il y a toujours il y a quelqu'un qui achète, quelqu'un qui vend, mais c'est pas tout à fait... Partout, il y a des falsifications, des histoires de corruption, des histoires... c'est pas une situation claire. Il n'y a jamais des situations claires dans ces système. Elle a trouvé cette histoire, enfin, elle a très bien compris cette histoire, et du coup elle est devenue dangereuse. Et elle est devenue dangereuse pour cette développeur qui est quelqu'un qui opprime beaucoup du monde, qui est propriétaire très agressif et très violent dans plusieurs bâtiments à Varsovie, dans de différents arrondissements. Et donc, un jour, elle est disparue. Un jour, elle est sortie de sa maison, on ne sait pas pourquoi. Elle était kidnappée, elle était son corps, ses mains étaient...
liées, quoi.
Liées, ouais, derrière elle. Son corps était couvert de gazole et elle est mise à feu. Et tout de suite, dans le moment où son corps était découvert dans cette forêt, la police a dit que c'était une suicide.
Et ça aussi, du coup, c'était quand que
il y a deux ans. Oui. Donc c'était en fait entre le 1er mars et le 8 mars. Et nous, on a appris, son corps a été identifié, c'était le jour des femmes, donc le 8 mars 2011. Et donc, tout de suite, la police a déclaré que c'était une suicide. Et c'était très stratégique parce que, selon la loi polonaise, dès que tu déclares que c'était une suicide, la police n'est pas obligée de sauvegarder les données. Donc, elle n'est pas obligée de trouver le canistre de gazole. Elle n'est pas obligée de trouver, enfin, s'il n'y a pas ces objets qui sont quelque part, ou d'enregistrer de voir les enregistrements du surveillance dans les rues pour voir où elle est allée, où elle est sortie, qui était dans, qu'est-ce qu'il y avait dans son appartement. Donc, il n'y a pas du tout ces données en ce moment. Et les derniers 2 ans. Le tribunal, la prosecution de Varsovie, ils ont insisté que c'était une suicide. Il y a 2 mois, ils ont finalement dit en fait non, c'était pas un suicide, c'était un meurtre. Mais du coup, on n'a pas des données. Alors le mois dernier, en fait, le procès il était officiellement terminé par la prosecution et le prosecuteur. Mais c'est toujours possible, en fait, de recommencer cette processus. Il faut juste avoir assez de pression sociale et la pression de nous. Si on insiste qu'il y aura de justice pour Yola, ça, on peut le faire ensemble. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a aussi pensé à faire ces rencontres autour des luttes du logement, parce que cette histoire de Yola, elle est pas juste importante pour nous à Varsovie. Son histoire montre comment ce système marche, et ce système de privatisation tout, de privatiser les logements, l'eau, l'air, tout ce qu'on a, tout ce qui est commun, ça marche, et ça se démontre très bien dans cette histoire de Yola. Qu'en fait, il n'y a pas trop longtemps, son appartement et on a trouvé que son appartement était mis sur le marché. Et sa morte, donc la morte de cette femme, valait en tant que...
Demande d'information en polonais.
Oui, pardon. Donc c'était 450 000 zloty. C'était la valeur de sa vie. Donc là, on voit...
Ça fait quoi? Ça fait 100 000 euros à peu près? C'est quelque chose un peu plus?
Un peu plus de 100 000 euros. Oui. Donc, et cette situation, cette privatisation, on la voit en France, on la voit en Italie, en Angleterre. Et nous, on trouve que c'est important de parler. De comparer comment elle est implémentée, comment elle est renforcée et comment on peut lutter, comment on peut partager les moyens de lutte contre cette privatisation. Et en ce moment à Varsovie, parce que les logements publics, ce qui reste, c'est une partie très petite. Donc dans les années, donc il y a une monopolisation d'accès au logement. Le logement devient de plus en plus une commodité. Et en ce moment, dans les derniers 8 ans, les prix des logements ont augmenté 2-3 fois, et tandis que les salaires des personnes moyennes ont diminué. C'est-à-dire on a de moins en moins de accès au logement. Et nous, on essaye de lutter contre cette reprivatisation ensemble avec les locataires. On essaye de les soutenir dans cette lutte. Et on a trouvé, en fait très souvent, on bloque les expulsions. Et donc, c'est des expulsions des gens qui sont dans la dernière stade de cette reprivatisation, où il n'y a pas d'autre moyen à ne pas trouver dans la rue. Parce qu'en fait, donc, la ville ne prend aucune responsabilité pour ces gens. Donc quand le privé vient, ils peuvent s'endetter, et s'ils s'endettent et ils doivent avoir quelques milliers de dettes pour que l'État va leur dire ok, on peut vous donner potentiellement un logement social, c'est une cas bizarre dans cette dans, dans ce qui reste des lois de locataires. Mais sinon, ces gens, ils n'ont pas de moyen d'avoir un autre logement après que leur maison soit réprivatisée.
J'ai lu aussi un article dans un journal pour les locataires à Berlin, mais qui parlait de la Pologne et qui parlait en fait de, je sais pas, je crois que c'était l'Est à Poznan, mais qui relogeait les gens, les logements sociaux en fait, c'est des logements en, comment on appelle ces baraques là de chantier quoi, enfin les qui sont pas du tout prévus, ouais, qui sont pas du tout prévus pour ça et que c'est ça les nouveaux logements sociaux. Je sais pas si du coup c'est pareil à Varsovie.
S'il y a un projet de, enfin des nouvelles maisons en boîte, des nouvelles maisons, il y a un maire d'un quartier de Varsovie qui propose ça en ce moment. Mais oui, ces quartiers des conteneurs, ça existe déjà pas loin de Poznań et d'autres villes de Pologne aussi. Et oui, c'est carrément des boîtes en plus qui coûtent très cher.
Ouais, puis enfin bon, ouais, qui sont pas isolés, qui peuvent pas supporter des hivers, qui proposent, bah, ils considèrent à partir de ce moment-là que les gens sont relogés et puis.
Oui, techniquement c'est un logement temporaire, mais non, les gens ils y habitent, enfin ils ont, il y a pas d'autres options donc.
Ouais, donc ça c'est les conséquences, on va dire, les suites plus loin, comment faire pour parquer les pauvres quand même quelque part. Oui. Une fois qu'on les a virés des logements privés.
Oui. Et donc, on essaye de bloquer ça en bloquant les expulsions. Et dans ces dernières années, il y avait un temps pendant lequel on arrivait à bloquer chaque expulsion. Il y a vraiment beaucoup du monde qui venait et la police n'arrivait pas à transgresser à pénétrer les appartements et dévirer les gens. Mais ces derniers temps, ça devient de plus en plus difficile.
Et ça a marché dans quelles années, enfin à quel moment et...
C'était l'année dernière.
L'année dernière, ça marchait encore et puis là, il s'est devenu plus répressif.
Oui, depuis quelques mois, ça c'est les derniers, je sais pas, 5-4 expulsions étaient, on n'a pas arrivé à les bloquer.
Et parce qu'ils sont devenus, ils ont eu d'autres techniques en fait, ou parce que
parce qu'ils voient que c'est une situation, c'est quelque chose qui grandisse et c'est quelque chose où il y a de plus en plus de gens qui se mettent ensemble pour lutter, que ça devient fort et ils voient en fait qu'il faut arrêter ça avant que ça grandisse. Donc ils engagent de plus en plus de des policiers, des forces de police. Donc ils considèrent ça comme quelque chose de plus en plus important. Et... parce que en fait, ça concerne environ 30 000 bâtiments à Varsovie. Donc, imaginons qu'il y a à peu près 20 appartements. Donc, chacune de ces maisons, ça concerne beaucoup, beaucoup du monde. Et une grande partie de ces gens, c'est des gens âgés. Donc c'est des gens qui ont vraiment reconstruit sa maison ou qui étaient petits juste après la guerre et qui ont habité dans sa maison, qui ont refait sa maison, qui se sont occupés de sa maison pendant des années. Et donc là, sur la retraite, ils se retrouvent dans une situation de lutte pour les moyens de vie. En fait, et ces gens âgés, ils sont en fait, ils détruisent tous les stéréotypes. C'est des gens, c'est les plus radicaux que je connais. En fait, c'est des gens qui, parce qu'en fait, ils ressentent le plus, ils ressentent ils ressentent ça sur le pot. Donc ils sont super forts, quoi.
On peut peut-être passer une musique. Mm-hmm. Alors, je sais pas. C'est là.
Oui, pourquoi pas.
Don't blame the system.
Mm-hmm.
Look at the cops in a riot gear, spraying their tear gas, killing us with fear. I wish they all could show us some love with some old school polite push and shove. But don't blame the system, don't blame the system. If the cops are gone, I'm sure we'd miss them. Don't blame the system, don't blame the system. There's a few bad pigs, but in the end we should all kiss them.
Turn on the TV, look at this fool, pushing forward another stupid rule. Trading our rights for his own career. Oh, does anyone on board know how to steer?
But don't blame the system, don't blame the system. Politicians are bad, but we would miss them. Don't blame the system, don't blame the system. There's a few bad apples, but the orchard's full of wisdom.
Look at the poor, how they work and strive. They've been robbed blind throughout their lives. None of their kids will get a degree unless they move to another country.
But don't blame the system, don't blame the system. Inequalities are bad, but we would miss them. Don't blame the system, don't blame the system. Capitalists are strong, so don't you miss them.
Look at yourself, you don't make a move. You're too busy running just like John Lennon told you. You point your fingers, telling who's to blame. Good cops are friendly and the bad cops are a shame.
Well, I blame the system, I blame the system. If the greed and hate are gone, don't think I'll miss them. I blame the system, I blame the system. If they took up all your weapons, you said this then. Thank you.
Donc, on est en train de parler de la lutte autour des logements à Varsovie. Et moi, j'avais du coup quelques questions. Surtout, en fait, je me demandais, parce que à Berlin, je sais que ça touche tout Berlin aussi, tous ces phénomènes-là. Mais il y a quand même des quartiers qui sont plus... où en tout cas, soit ça se ressent plus, soit les gens vont être aussi plus réactifs et entrer en lutte et lutter contre ça. Et donc je me demandais aussi si à Varsovie, aussi à Berlin, il y a cette tendance que Berlin s'était coupé en deux est-ouest et qu'il y a vraiment la volonté de recréer un centre à l'intérieur du ring, donc le S-Bahn qui fait le tour du centre de Berlin. Enfin, même si dans tous les quartiers, il y a quand même ce phénomène-là. Et je me demandais du coup si à Varsovie, il y avait aussi une certaine politique autour du centre ou s'il y avait des quartiers qui étaient plus touchés que d'autres ou...
Oui, tout à fait. En fait, c'est intéressant cette question de urbanisme et de construire une vision d'une ville. En fait, je veux juste revenir dans cette période après la guerre, parce que donc les autorités de Varsovie après la guerre, ils avaient leur propre vision de comment la ville devrait être, et c'était une vision à la Staline ou Haussmann à Paris, donc une vision de construire à Varsovie en tant qu'une sorte d'énorme panopticon pour contrôler le mouvement des gens, pour assurer qu'en fait au centre de Varsovie, comme Haussmann a fait à Paris, où tu as des loyers qui sont très très hautes pour garder le centre pour les riches, pour la bourgeoisie, pour chasser les pauvres du centre, pour qu'ils puissent pas s'organiser, ils puissent pas résister. Et donc après la guerre, quand les gens ils ont commencé à reconstruire des anciennes parties de Varsovie, ils étaient directement en contradiction avec ce plan de Varsovie qu'avaient les autorités à l'époque. Et aujourd'hui, on voit toujours cette contradiction, cette tension. Est-ce que il y a des parties, surtout à le plein centre de Varsovie, où c'est des énormes avenues avec des monuments, des statues, des parties d'architecture qui font pour contrôler. Et dans ces espaces, il y a il y a des coins qui étaient reconstruits par les gens, par le peuple. Et il y a la concentration assez forte des maisons. Et donc, il y a dans ces quartiers-là, il y a les gens moyens qui luttent pour exister au centre, pour avoir pour pouvoir acheter quelque chose au centre même. Parce qu'il y a, donc, les autorités qui poussent pour les magasins de luxe, qui veulent que le centre devienne comme, Alexanderplatz ici. où ces gens, ils n'ont pas accès. Donc, en fait, ces développeurs et la ville de Varsovie, avec cette privatisation, en fait, leur but, c'est de reconstruire les maisons, mais surtout de construire des maisons de luxe, des appartements de luxe, des bâtiments, des bureaux. Et donc, c'est aussi un processus de chasser les gens qui arrivent pas à ce standard, quoi, que les autorités imposent. Et en Pologne, parce que les disparités économiques sont énormes, c'est la plupart des gens, vraiment.
Et j'ai encore d'autres questions. Mm-hmm. alors, il faut que je retrouve. Une question, c'était est-ce que... Enfin, c'est toujours par rapport à des trucs que moi j'ai pu observer à Berlin. Par exemple, à Berlin, pendant pas mal de temps, la lutte autour des expulsions ou des choses comme ça, c'était souvent tous les projets alternatifs, les anciens squats, qui faisaient toute une campagne là-dessus. Et puis en fait, finalement, ça a aussi fait une certaine résonance dans la presse. Où en fait du coup maintenant tous les médias, enfin toute la presse et même ça y est, même la mairie de Berlin reconnaît qu'effectivement il va peut-être y avoir un problème de logement à Berlin, mm-hmm. ce qu'ils reconnaissaient pas avant. Et puis maintenant c'est aussi en train de tourner vers une lutte contre les expulsions locatives, pas forcément du milieu alternatif. Et voilà, du coup je me demandais comment ça se passait à Varsovie, si c'était s'il y avait aussi ce truc des projets alternatifs et comment c'était le lien avec les expulsions locatives justement des personnes âgées qui ne sont pas forcément dans ces milieux-là.
Pour nous, pour mon propre collectif, c'est très très lié. En fait, Sirena, ce bâtiment, ce centre social, était squatté le jour même où on a appris que Yola Bojaska était morte. Donc, tout de suite après sa mort, il y avait un petit vigile devant. Avant, c'était une manifestation, mais on a appris qu'elle était morte pendant la manifestation. Et on est tout de suite allé devant la mairie. Et là, il y avait beaucoup de gens différents, beaucoup des jeunes punks, des jeunes squatters, des gens engagés dans la lutte différente. Et bien sûr, tous les locataires qui luttaient depuis longtemps. Et il y avait un moment pendant lequel quelqu'un a dit « Ok, alors là, on va faire une pause, un moment de silence pour s'en souvenir de Yola Bojaska. » Et il y avait une femme très, très âgée. Elle devait avoir 40-10 ans. Elle a pris sa canne, elle a dit non, j'en ai marre des silences, j'en ai marre de toutes ces manifestations de merde qui font rien du tout, qui servent à rien du tout. Il faut qu'on prenne les choses en main. Je vais changer cette putain de canne pour un pied de biche. Et ce jour même, on a squatté ce bâtiment. Et depuis 7 ans, en fait, on est...
Non, il y a juste des images dans qui sont en fait des images humaines derrière dans le studio qui commentent les propos.
Oui, donc...
Ça me déconcentre un peu, mais...
Donc depuis 7 ans, en fait, ce contexte de logement et de la lutte pour le logement et contre la privatisation ou réprivatisation est très, 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 très important pour... sûrement pour une partie des gens engagés dans des initiatives anticapitalistes des alternatives à Varsovie. Donc l'année dernière, par exemple, il y avait une situation pendant toute l'année. L'année dernière était un moment assez fort. Il y avait des expulsions très très souvent, genre une par semaine. Et donc il y avait beaucoup des gens qui venaient et des gens différents. Donc les blocades des expulsions, c'est tout le monde qui est là. Et puis il y avait une expulsion d'un squat. Et pour cette expulsion, il y avait aussi tout le monde qui est venu. Donc il y avait des locataires qui sont venus pour bloquer l'expulsion du squat et on a réussi. Et je pense qu'on a réussi parce qu'il y avait tous ces gens ensemble. Et on a réussi à réapproprier une autre c'était une clinique de une clinique avant, une clinique médicale, et on a réapproprié. Et puis après on est, depuis ce temps, en fait, on négocie avec les autorités ensemble aussi. C'est un autre sujet, c'est quelque chose qui a plein de difficultés, plein de tensions, et c'est super problématique. Et là, on revient sur cette question pour se demander qu'est-ce qu'on va faire. Mais avec les locataires, donc des différentes associations de locataires, donc c'est la plus grande, les deux plus grandes en ce moment, et en plus les petites associations, juste des gens qui se sont mis ensemble dans leur bâtiment, et deux groupes des squatteurs. On est dans ces négociations avec les autorités de la ville. Et bien sûr, ces négociations, on le savait dès le début, mais ces négociations ne servent à rien du tout, parce que les autorités ont même pas fait un pas pour un pas vers nous, pour dire ok, pendant les négociations, on arrête les expulsions, par exemple. Ils n'ont pas fait ça. Et donc, je vais peut-être pas trop entrer dans cette piste, mais oui, donc pour répondre à la question, on est très très liés. Et pour la situation sur Berlin, d'après ce que j'observe, j'ai l'impression que c'est ça ce qu'il faut aussi ici. Mmh. Une des stratégies pour lutter, qu'on n'a pas encore pu officiellement utiliser, c'est la grève des loyers, par exemple. Et il y a beaucoup de gens à Varsovie qui sont en grève eux-mêmes, qui ne sont pas organisés avec d'autres gens, ils ne font pas ensemble. Donc là, on n'est pas là encore pour dire officiellement, alors on fait une grève de loyer, parce que ce serait quelque chose de super fort vu qu'il y a autant de gens. On n'est pas encore là, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait être super fort à Berlin vu qu'il y a tous ces projets de house qui payent un loyer après tout.
Oui, je pense qu'à Berlin, il y a des tentatives, en tout cas, qu'il y ait des, ouais, de relier les gens sur ces sujets-là, mais bon, c'est encore en devenir, quoi. Et du coup, encore une dernière question, c'est justement, donc à Berlin, il y a le thème justement de la hausse des loyers, la gentrification, c'est maintenant dans la presse mainstream, c'est aussi un sujet. Aussi, d'une certaine manière, ça permet de dire oui, bah c'est comme ça, c'est un processus qui arrive partout, on n'y peut rien, et puis de temps en temps de dédouaner la mairie ou le Sénat de Berlin en disant regardez, ils font quand même des efforts. Mmh. Mais du coup, ça a quand même un certain écho, et tu peux parler à n'importe qui à Berlin, tout le monde de toute façon se retrouve aussi tout le monde, comme ça va assez vite, tout le monde remarque bien que les soucis qu'il y a au niveau du logement. Donc je me demandais s'il y avait autant d'écho aussi pour tout le monde, en fait, enfin je sais pas comment expliquer, à la fois dans la presse mais aussi au niveau de que tout le monde est au courant de cette situation là en fait.
Oui, tout à fait. C'est une situation qui est toujours présente aux médias. Mais bien sûr, c'est surtout la perspective des autorités. Donc, les autorités, pour eux, la réprivatisation, c'est une forme de justice historique. Donc, ils présentent ça en tant que quelque chose qui est important, et quelque chose qui est important dans cet esprit idéologique du néolibéralisme, parce qu'on est entré dans la famille des pays capitalistes où la propriété privée est la valeur la plus importante. Donc c'est toujours présent. Mais la perspective est devenue de plus en plus les locataires qui arrivent pas à payer, les gens qui s'endettent. Alors on se débarrasse de ces gens-là. Vu que l'endettement c'est une question sur laquelle on met beaucoup de stress en fait, nous avec les locataires, parce que c'est un endettement qui est faux, qui était créé par les autorités, parce que les autorités ont créé une situation dans laquelle les gens s'endettaient. Donc c'est pas ces gens-là qui en nature qui arrivent n'arrivent pas à je sais pas à travailler bien, et c'est des gens qui veulent pas payer, c'est comme les présentent les médias. Et c'est important aussi parce que, et ça les autorités ils le disent pas, mais l'État dépense énormément d'argent pour la reprivatisation, parce que la reprivatisation, c'est-à-dire soit il donne en nature, c'est-à-dire en valeur 100% la valeur de ces maisons. Et donc tu peux imaginer combien d'argent c'est, vu qu'une bâtiment ça vaut entre, je sais pas, 20 000 jusqu'à plus, enfin pas 1000 mais millions. Et donc c'est énormément d'argent qui vient du budget national et du budget de la ville. Donc toutes les coupures des sphères publiques, c'est-à-dire les coupures qu'on a eues l'année dernière, c'était les coupures dans l'éducation par exemple, dans moins de cafétérias, moins d'écoles, moins des enseignantes. Ça vient parce que il y a un trou dans le budget. Le trou vient dans une grande partie de cette privatisation qui est en train de se dérouler et de devenir de plus en plus forte. Et donc c'est quelque chose qui est super présente. Mais bien sûr, c'est présenté selon une ligne néolibérale et les gens en Pologne, une grande partie acceptent, malheureusement. Mais aussi, vu que ça touche à autant des locataires, autant des résidents de la ville, il y a plein de gens qui en parlent. Là, on est, par exemple, à Sirena, on fait des permanences pour les locataires. Et donc, il y a un avocat qui vient pour aider avec les parties du lutte qui concernent des papiers, des documents, des questions, des interventions qu'il faut envoyer dans les cours. Et aussi, c'est une permanence pratique pour aider les gens qui n'ont pas de situation. Donc est-ce qu'on va bloquer leur expulsion, est-ce qu'on va essayer de bloquer le bailleur, est-ce qu'on va parler de cette situation dans les médias, est-ce qu'on va trouver cette personne un autre logement. Et ça on fait ensemble aussi la réappropriation des maisons vides. Et donc pour ces permanences, il y a beaucoup de gens qui viennent. Surtout là, parce que la saison de protection, donc la saison spéciale dans l'hiver où les expulsions légales n'existent pas, elle vient de terminer. Donc il y a des gens qui vont commencer à devenir plusieurs. Mais oui, c'est quelque chose qui est présent, qui est très présent.
J'ai pas forcément d'autres questions. Je sais pas si tu as encore des choses.
Non,
qui te viennent à l'esprit. Bah, du coup, peut-être qu'on peut redire les dates de cette rencontre internationale autour du logement.
Mm-hmm. Donc c'est le 21 jusqu'au 23 juin, donc le mois qui vient, et c'est à Varsovie.
Et du coup, il y aura des différentes discussions d'organiser, etc.
Mm-hmm. Donc il y aura des groupes de Pologne et aussi des groupes des différents pays qui vont venir et qui vont présenter ce qui se passe dans leur ville et comment ils luttent pour le logement chez eux. Et aussi, on a essayé on espère qu'il y aura aussi des groupes de l'Est. Donc peut-être on pourra aussi connecter des luttes dans une Europe un peu plus large.
Mmh. Alors on finit avec... Aide-moi.
Pour falloner, Nitaka.
Pour falloner. Ok.
wieczora. Już nie będziesz taka, jaka byłaś wczoraj. Wczoraj wyglądałaś jak róża w ogrodzie, a dzisiaj wyglądasz jakoby we wodzie. Sądnego. Już nie będziesz miała wianka różanego. Żebyś ty się przeglądała z rana do wieczora. Już nie będziesz taka, jaka byłaś wczoraj. Ale możesz jeszcze coś wyburzyć. Wyburzyć, zrównać ziemią, oczyścić. Pomyśl o tym. Pomyśl o tym. Kiedy znowu potkniesz się o siebie i bezradność nazwiesz kalectwem.
Radio-Sterni.qsdf.org.